Donc nous sommes en train de voir ce que signifie l'épopée royale dans la situation de l'histoire d'Israël. Et pourquoi le livre a été écrit de cette manière-là. D'autant plus que nous avons de cette époque royale deux éditions différentes dans la Bible. Nous avons les livres des rois, et puis nous avons les livres des chroniques. Et ce sont deux écoles différentes, donc deux théologies différentes, qui ont essayé de dire le sens de la royauté pour Israël, sens concret. La royauté a échoué en Israël, et il faut en donner des raisons. Et sens ouvert, accueillant pour l'avenir, car il y a une perspective de royauté. Mais la question est de savoir si la royauté est un pouvoir de ce monde ou si la royauté, c'est une présence de Dieu dans ce monde. Et donc c'est vraiment l'enjeu de l'écriture de cette double tradition. Et comme vous le savez, nous l'avons vu un certain nombre de fois à propos d'autres livres, il y a deux tendances, deux écoles dans la Bible elle-même. Ce qui montre bien que la tension n'est pas résorbée, qu'il y a une tension entre différents courants, et que cette tension est signe de vie. Deux perspectives vis-à-vis de cette royauté. Celle des livres des rois, c'est une tendance, nous dirions aujourd'hui, davantage socialiste, c'est-à-dire une tendance qui part du peuple et qui se demande ce que le peuple désire et ce qu'il peut avoir de ce qui est son désir. Car nos désirs ne se réalisent que rarement tels que nous les désirons. Et donc ça, c'est une première perspective, celle du peuple. Qu'est-ce que le peuple a perçu dans l'histoire de la royauté? Nous voulons un roi comme les autres nations. Et est-ce que cette espérance a été tenue ou bien est-elle déçue? Ça, c'est la perspective du deutéronomiste que nous sommes en train de voir. Il y aura une autre vision. Celle, nous dirions, qui part plutôt d'en haut, mais qui est plus conservatrice. Donc ce qui était bon autrefois doit l'être toujours aujourd'hui et de la même manière. Donc on veut répéter l'ancien. Et donc il y a une reconstruction qui est en vue. Reconstruction du temple, reconstruction du pays, et nous verrons, ça, c'est présent aussi dans la Bible, mais c'est une perspective plus, comme on l'appelle, sacerdotale, c'est-à-dire d'une classe de la société qui a un certain pouvoir religieux, et puisque on a vu que le pouvoir royal ne fonctionnait pas bien, ce pouvoir religieux prend une nouvelle vigueur lorsqu'on rentre après l'exil dans son pays. Donc vous voyez, cette tension est importante entre progressiste, qu'est-ce qu'on veut avoir, qu'est-ce qu'on a eu, qu'est-ce qu'on aura, deutéronomiste, et plus conservatrice, on tient à ce qu'on avait. Et donc c'est un peu l'enjeu de ce double texte que nous avons dans la Bible. Je vous lis à ce sujet, justement, dans toujours la revue Biblia, toujours année 2007, dans le numéro 58, je crois, oui, qui a été rédigé en grande partie par Philippe Abadi. Philippe Abadi est le professeur de l'Institut catholique de Lyon, et qui donne le ton dans ce numéro 58 en nous disant, comme titre de ce cette livraison, l'histoire d'une espérance déçue. Si le livre des rois n'est en rien un livre d'histoire, il n'en compte pas moins une histoire, celle de la dynastie davidique. On veut mettre en exergue la dynastie de David. Dans le nord, les dynasties se sont succédées, il n'y a pas d'unité en quelque sorte. Tandis que dans le sud, c'est-à-dire à Juda, il y a une continuité dans la descendance de David. Continuité, bien sûr, avec un certain nombre de difficultés et d'épreuves, mais continuité quand même. En parallèle avec l'histoire mouvementée du royaume d'Israël, le royaume du Nord, abordée dans le précédent numéro de Biblia, l'histoire du royaume de Juda, le sud donc, apparaît comme relativement stable, centrée autour d'une unique dynastie, les Davidides, et c'est bien cela que l'historien deutéronomiste veut mettre en scène, et d'une ville sainte, Jérusalem. Est-ce qu'une ville sainte est sainte par elle-même? Le jugement porté sur ces rois est souvent positif. Et certaines figures apparaissent même comme des modèles de fidélité. Et il y en a deux d'une manière tout à fait particulière. Ézéchias, celui que Isaïe nomme Emmanuel, le signe que Dieu est avec nous. Et Josias, le réformateur. Mais un réformateur qui a posé une énorme question au peuple d'Israël, puisqu'il a été tué dans la bataille entre le nord, les Assyriens, et le sud, c'est-à-dire les Égyptiens, à la bataille de Megiddo. Voilà un homme qui a été tué dans la fleur de l'âge, juste après avoir fait une réforme. Est-ce que cette réforme venait de Dieu ? Ou bien était-ce l'œuvre d'un homme? Voilà la question qui s'est posée au peuple. Le jugement porté sur ces rois est souvent positif, et certaines figures apparaissent même comme des modèles de fidélité. Ainsi en est-il Josaphat, d'accord, Ézéchias et Josias, trois figures importantes. Il n'en reste pas moins qu'il s'agit aussi d'une espérance déçue. On pensait que ça irait bien quand on aurait le pouvoir. Si David, le fondateur, reste le grand modèle à suivre, lui qui a marché dans les voies du Seigneur, et cependant Dieu sait s'il avait du sang sur les mains, on peut en dire autant d'Akaz ou de Manassé. Au fil du texte, ces rois apparaissent comme des contre-modèles, des figures impies. D'ailleurs, parle de l'impie Manassé. Manassé sera tenu pour responsable de la grande catastrophe qui frappera Juda et Jérusalem. La dynastie porteuse d'espérance d'éternité devant Dieu s'effondre. Alors, dans le péché d'infidélité, et son dernier représentant, le pâle Sédécias, Dieu est justice, Sédéchiam, ne sera plus qu'un souverain fantoche entraîné par un destin trop grand pour lui. Seule demeure une lumière en attente, qu'adviendra-t-il de Joachim, le roi exilé, dont on rapporte en toute fin la sortie de prison. Nous allons voir d'ailleurs le texte tout de suite. Le livre rapporte donc l'histoire d'un échec, d'une dynastie qui a connu ombre et lumière avant d'entraîner son royaume et son peuple dans l'exil. Et donc il faut expliquer l'exil. Est-ce que l'exil est un châtiment de Dieu ou une erreur de l'homme? Vous voyez, c'est la grande problématique du livre. Et ça, c'est une lumière aussi pour nos sociétés actuelles. Quelle est la présence de Dieu dans cette histoire et quelles sont les prétentions de l'homme? De manière assez curieuse pour nous contemporains, habitués à des critères plus objectifs, le jugement porté sur chaque roi est moins celui de la grandeur politique ou de l'incapacité à bien régner, ça existe aussi, hein. Il y a des bons, il y a des mauvais gouvernants, que celui de la fidélité au culte célébré à Jérusalem dans le temple où Dieu a placé son nom. Hein, c'est une formule qui revient constamment et dans le Deutéronome et dans l'histoire deutéronomique. Jérusalem, le lieu que Dieu a choisi pour y faire habiter son nom, c'est-à-dire sa présence. Donc il y a un lieu où Dieu réside. Le Créateur aurait-il une préférence pour une maison, pour un état? Ainsi, Ézéchias, dont la politique hasardeuse a pourtant conduit son peuple au bord du gouffre, est-il fortement loué pour avoir réformé le culte? Tandis que Manassé, au long règne prospère et pacifique, est considéré comme modèle du souverain impie, parce que ses alliances étrangères ont amené à Jérusalem des cultes idolâtres selon la coutume du temps. Et nous verrons que c'est une histoire qui se répète encore, ce n'est pas la seule fois en Israël. Cela va se retrouver et sous l'époque perse et surtout sous l'époque grecque, puis à l'époque romaine. Donc qu'est-ce qui se passe quand les espoirs de l'homme sont déçus? Ça vaut aussi pour toute vie humaine. Ces deux exemples montrent que le jugement de l'historien n'est pas celui du croyant et que le livre des rois use de critères qui sont à distance de ceux que retiendrait l'historien. Un historien d'aujourd'hui n'écrirait pas l'histoire de cette manière. Il faut accepter pareil décalage pour entrer dans un livre dont le propos est d'abord théologique. Notre objectif sera donc de nous en tenir à la lecture du livre, quitte à introduire ça et là dans le propos un jugement plus distancié. Et c'est ce que nous avons à voir. C'est une histoire typiquement judéenne, c'est-à-dire de la tribu de Judas. Mais c'est important évidemment pour nous. Et c'est d'autant plus important que le Nouveau Testament va se baser sur le fait que Jésus est fils de David, descendant de ce David. Et donc qu'il y a une ambiguïté sur sa royauté. Es-tu le roi des Juifs? Ah, c'est toi qui le dis, dit Jésus. De quelle royauté s'agit-il et de quel Juif s'agit-il? Et vous voyez que la question est d'importance. Et puisque la rédaction définitive de ces textes vient d'après l'exil et vraisemblablement de la période perse, avec des retouches de la période grecque, où là il y a eu persécution des Juifs, la question se pose véritablement. Et alors, je vous avais parlé donc des livres des rois, et nous avons vu rapidement survoler en quelque sorte les pages 88-89. Et à la page 90, attendez, encore une chose. Importance évidemment, de toute manière, et c'est peut-être un point qui est que nous retrouvons à la fois dans les livres des rois et dans les chroniques. Dans les livres des chroniques, qui racontent la même histoire. Et il faut bien comparer ces deux histoires qui sont tout à fait parallèles avec un certain nombre de retouches. Et donc ces retouches sont importantes, puisqu'on a gardé les deux textes. On aurait pu n'en faire qu'un, mais on a gardé les deux textes. Et cette tension entre ces deux perspectives, entre ces deux théologies, est essentielle. Comme la tension aujourd'hui dans ce qu'on appelle la théologie d'en bas et la théologie d'en haut, hein, vécue par le peuple ou donnée par Dieu, hein, la tension est extrêmement importante. Comment découvrons-nous Dieu? Quelles sont nos images à son sujet? Et comment vivons-nous selon ces images que nous en avons? Et avec quel succès? et à quel niveau placer ce succès. Vous voyez, alors je souligne à la page 90 que durant cette époque, le peuple ne reste pas les bras croisés. Il travaille. Il travaille sur le plan matériel. Le pays devient plus prospère. Il porte des fruits. L'agriculture s'ouvre de plus en plus. Et avec succès. Et puis, sur le plan littéraire, d'abord, on commence à écrire l'histoire, surtout à partir de Josias. Déjà, autour de Salomon, il y avait, disons, une collection de documents. Mais, sur le plan culturel, le plan littéraire et culturel, il y a aussi un progrès sensible. Et donc, malgré que Juda soit un tout petit état, il devient quand même le concurrent de grande puissance. Et ça pose un autre problème. S'il y a une certaine importance sur le plan culturel, donc un savoir qui est aussi un pouvoir, si Salomon, dit autrement dans le texte lui-même, si Salomon peut discuter sagesse avec la reine de Saba, qui est plus importante, qui est une reine très riche, si on peut discuter sagesse, c'est que ce petit état prend une place importante dans le concert des nations. Donc il y a un rapport entre ce petit territoire yaviste, qui met le monothéisme au cœur de son histoire, et d'un monothéisme qui a un certain rapport avec la société, puisqu'il a un temple, il a un peuple, il a un territoire, comme un roi d'ici-bas, mais en même temps avec une très grande différence, c'est cette présence transcendante de Dieu. Indispensable, puisque nous avons vu qu'avec Élie et Élisée surtout, les deux grands champions du monothéisme, ils luttaient constamment contre le syncrétisme. Ce syncrétisme que nous connaissons bien aujourd'hui, hein, où on dira, hein, de façon tout à fait simple, sans même réfléchir, ben, toutes les religions se valent. Eh bien, la question est posée dans ces livres aussi. Et c'est la place de la prophétie. Pourquoi y a-t-il des prophètes à côté du roi? Pourquoi ces prophètes ne sont pas uniquement des devins, ou des stratèges, ou des conseils de sagesse, mais pourquoi ceux qui entourent le roi de leur conseil sont-ils des prophètes qui rappellent constamment, justement, le monothéisme? Il n'y a qu'un Dieu. Et vous avez cela, justement, à partir de la page 95, après avoir fait un petit état de la question du royaume du Nord. Au cours de cette histoire royale, je suis à la page 95 du syllabus, il faut prendre en compte la vie du peuple souvent déchirée par des querelles politiques et sociales. Devant protéger ses biens et trouver des moyens de subsistance, malgré les taxes et les impôts souvent insupportables. Ah, il faut de l'argent. Et tout le monde doit contribuer. Dans le sud, les villes recueillent à la fois les richesses et la culture. Dans le nord, la civilisation rurale perdure, mais le faste des rois de Samarie fait scandale. Le scandale des grands qui possèdent le pouvoir. Donc voyez, il y a une attaque de la réalité du pouvoir, ou plutôt une réflexion sur ce qu'est le pouvoir. Dans la campagne, la religion n'est pas restée très pure. On a assimilé les Cananéens avec leur culte et le syncrétisme règne. Donc on va un peu là où on espère trouver son intérêt. En Juda, la centralisation du pouvoir et de la religion à Jérusalem a maintenu en vie le yahvisme. Le fait qu'il y avait un lieu focalisait précisément la réalité croyante. Mais les correctifs sont souvent nécessaires, d'où l'importance des prophètes. Ils vont essayer de replacer constamment le peuple et surtout les rois et les prêtres dans l'orthodoxie. Le rôle des prophètes est précisément de rétablir ou de conserver la réalité de l'alliance dans la vie courante. Si Dieu fait alliance avec l'homme, c'est fondamental pour la compréhension de la manière de vivre. C'est pour exprimer cette nécessité de l'alliance que l'auteur des livres des rois placé au centre de son œuvre la geste des deux fondateurs du prophétisme, Élie et Eliyahu. Mon Dieu, c'est Yahvé, il n'y a que lui. Touche pas, mon Dieu. Et le nom de Élie ou Élisée signifie exactement la même chose. Et alors, je vous montre un peu le rôle du prophétisme dans le Nord, surtout. Mais dans le Sud, pareillement. Vous avez les trois grands prophètes, les prophètes écrivains, comme on les appelle, même s'ils n'ont pas beaucoup écrit, mais on a écrit leur histoire, et eux ont prononcé des oracles. Puis ces oracles ont été mis bout à bout, pas toujours dans l'ordre chronologique, mais on essaie, vaille que vaille, de retrouver l'ordre chronologique dans la rédaction définitive. Mais pour montrer la critique religieuse qui doit constamment se dédoubler, en quelque sorte, la réalité de la vie courante, du pouvoir, de la société, du commerce. Est-ce que Dieu est présent dans tout ça? Que fait Dieu dans tout ça? Et alors, à partir des chapitres 18 jusqu'au chapitre 25 du deuxième livre des rois, nous avons précisément cette histoire. Alors je reprends avec vous dans le texte. Il faut souvent aller relire le texte tel qu'il est écrit pour percevoir la différence entre notre manière de voir et celle de l'auteur. Je prends au chapitre 17. Le chapitre 17 est important dans le deuxième livre des rois parce que il marque la fin et la réflexion sur la fin du royaume du Nord, de la Samarie. Donc qui était plus riche, en tout cas il y avait une partie de la population qui était très riche, grand propriétaire terrien, et à côté de cela, une plèbe. Reprenez le livre d'Amos et vous aurez un peu la situation telle qu'elle se posait dans le Nord. Osée aussi d'ailleurs. Je prends au chapitre 17 du deuxième livre des rois, verset 5. Le roi d'Assyrie. Donc nous sommes à l'époque où l'Assyrie va être reprise par la Babylonie, qui n'est encore qu'un état qui monte et qui prend de plus en plus d'importance. Et donc les Babyloniens vont dominer les Assyriens avec une politique d'expansion encore plus grande. Le roi d'Assyrie envahit tout le pays et vint assiéger Samarie, Shomron, le gardien, pendant 3 ans. Et en la 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie. Ne vous en faites pas, il y a des noms qui se retrouvent dans le nord et dans le sud et ce ne sont pas les mêmes personnes. Mais les noms sont les mêmes. Que ce soit Yoram, que ce soit Ozias ou Ozias, etc. Et il déporta les Israélites en Assyrie. Ça, c'était le truc des dominateurs. On déporte, mais on ne déporte pas n'importe qui. On déporte les têtes pensantes, c'est-à-dire les gens qui sont capables d'une politique, et ceux qui sont capables de faire des armes. On appelle dans la Bible des serruriers, c'est-à-dire des travailleurs du fer. Et quand on a déporté tout cela, ben, on n'a plus que une moyenne que l'on peut assommer plus facilement. Il les établit à Hala, sur le Habor, fleuve de Gozan, et dans les villes des Mèdes. Et les Mèdes, hein, qui vont monter eux aussi après les Babyloniens, et qui vont être repris aussi par les Perses. Cela arriva, réflexion, cela arriva parce que les Israélites avaient péché contre le Seigneur, leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte. On oublie les leçons de l'histoire. Si on a acquis la liberté, c'est parce que Dieu nous a fait sortir de l'oppression, nous a libérés. Libération d'abord naturelle, physique, puis libération intérieure par le don de la Torah au Sinaï, à l'emprise des pharaons, rois d'Égypte. Ils adorèrent d'autres dieux, c'est-à-dire on a mis d'autres valeurs à côté de la présence divine. Et ces valeurs ont pris beaucoup plus d'importance, que ce soit le progrès, que ce soit la richesse, que ce soit le sexe, que ce soit le plaisir, peu importe. Ils suivirent les coutumes des nations que le Seigneur avait chassées devant eux. Les Israélites proférèrent des paroles inconvenantes contre le Seigneur, leur Dieu. Est-ce qu'il est encore là? Les gens disent autour de nous, il n'y a pas de Dieu, hein, dans le psaume. Ils se construisirent des hauts lieux, c'est-à-dire des endroits de réunion, de plaisir, nous dirions aujourd'hui, partout où ils habitaient, depuis les tours de garde jusqu'aux villes fortes. Ils se dressaient des stèles et des pieux sacrés, des casinos, dirions aujourd'hui, sur toute colline élevée et sous tout arbre verdoyant. Ils sacrifièrent sur tous les hauts lieux à la manière des nations que le Seigneur avait expulsées devant eux. Et ils y commirent de mauvaises actions provoquant la colère du Seigneur. Qu'est-ce que c'est que la colère du Seigneur? Sinon le fait que quand on atteint l'homme dans sa dignité, c'est Dieu qu'on atteint. Donc d'une manière encore implicite, Dieu est présent dans la réalité humaine et dans l'homme. Ils rendirent un culte aux idoles alors que le Seigneur leur avait dit « Vous ne ferez pas cette chose-là. » On a oublié les commandements de la première table de la Torah. « Un seul Dieu tu adoreras. » Pourtant, le Seigneur avait fait cette injonction à Israël et à Juda par le ministère de tous les prophètes et de tous les voyants. Donc, il y avait eu une responsabilité qui était prise. « Convertissez-vous de votre mauvaise conduite, avait-il dit, et observez mes commandements et mes lois, selon toute la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je leur ai communiquée par le ministère de mes serviteurs, les prophètes. » Là est l'importance du prophétisme. « Mais ils n'obéirent pas, ils raidirent leur nuque, plus que l'avait fait leur père, qui n'avait pas cru en Dieu. » Dans le Seigneur, leur Dieu. Ils méprisèrent ses lois, ainsi que l'alliance qu'il avait conclue avec leur père et les ordres formels qu'il leur avait intimés. À la poursuite de la vanité, ils sont devenus vanité. Les idoles sont vanité, c'est-à-dire relative. Hevel Havalim, vanité des vanités, dit Kohelet, et tout est vanité. Tout est relatif. Mais relatif à quoi? À quelle présence? À l'imitation des nations d'alentour, bien que le Seigneur leur eût commandé de ne pas faire comme elles. Ils rejetèrent tous les commandements du Seigneur leur Dieu et se firent des idoles fondues, des deux veaux, les deux idoles du nord et du sud, Bethel et Pidan. Ils se firent un pieu sacré, ils se prosternèrent devant toute l'armée du ciel et rendirent un culte à Baal. toutes sortes de maîtres qu'ils se donnaient à eux-mêmes. Le terme Baal, c'est le maître. Ils firent passer leurs fils et leurs filles par le feu. Ils pratiquèrent la divination et la sorcellerie. Ils se vendirent pour faire le mal au regard du Seigneur, provoquant sa colère. Alors le Seigneur fut profondément irrité contre Israël et l'écarta de devant sa face. Il ne resta que la seule tribu de Juda. Vous voyez, celui qui parle ici, c'est un judéen. Hein, Israël, bon, on comprend qu'on est puni, mais Juda, attention, il est resté fidèle. Puisque la tradition de la royauté a continué le chemin de la dynastie. Juda non plus, attention, on parle d'Israël, mais Juda non plus. Il faut quand même faire amende honorable. Juda non plus n'observa pas les commandements du Seigneur son Dieu et suivit les coutumes qu'Israël avait établies. Et le Seigneur repoussa toute la race d'Israël, il l'humilia, il la livra au pillard, tant qu'enfin il la rejeta loin de sa face. Et c'est de là que vient cette expression que le bras de Dieu, ce sont les peuples, ce sont les envahisseurs, ce sont tous ceux qui veulent mettre la main sur le territoire. Il avait en effet détaché Israël de la maison de David. Et Israël avait proclamé roi Jéroboam, fils de Naboth. Jéroboam avait détourné Israël du Seigneur et l'avait entraîné dans un grand péché. Ce qu'on appelle donc le péché de Jéroboam, c'est-à-dire le schisme. On a fait sécession. Donc si on a fait sécession, on n'a pas reconnu que le Dieu unique nous unifiait précisément. Qu'il y avait une unité plus profonde que les divisions, ce qu'on appelle en politique le bien commun. Les Israélites imitèrent le péché que Jéroboam avait commis, ils ne s'en détournèrent pas, tant qu'enfin le Seigneur écarta Israël de sa face, comme il l'avait annoncé par le ministère de ses serviteurs les prophètes. Il déporta les Israélites loin de leur pays, en Assyrie, où ils sont encore aujourd'hui. Et puis, on vous donne la situation, il y a eu un schisme, et bien ce schisme perdure. Et ce schisme, c'est que, à côté de la tribu de Juda, va exister la tribu maintenant qui s'amenuise de plus en plus, des Samaritains. Ce qui reste de l'ancien royaume d'Israël ou de Samarie. Donc voilà le bilan. Et ce bilan de l'histoire que Philippe Abadie, justement dans le texte de la livraison numéro 58 de Biblia, il développe une histoire judéenne. Et le titre développé, c'est ceci. Le livre des rois illustre à merveille une caractéristique majeure de la Bible. Ce sont les problèmes du rédacteur qui transparaissent dans ses récits. Ce sont des problèmes actuels d'après l'exil. Et quand nous les relisons, nous pouvons retrouver ces mêmes problèmes, avec des circonstances très différentes, bien sûr. Qui était-il? Qui a rédigé ce livre? Philippe Abadie résume pour nous la situation telle qu'elle se présentait au sortir de l'exil. Et il nous montre que, effectivement, le texte est basé sur la présence de Dieu à Jérusalem qui rend cette ville imprenable. Et donc, la royauté d'Israël, la dynastie de David, elle doit perdurer indéfiniment. Elle doit perdurer indéfiniment. Et ça, c'est une histoire, une idée qui va aussi perdurer. Et quand on n'aura plus de roi, quand les rois, la royauté en Juda aussi aura disparu, parce que plus de 100 ans après, c'est en Juda aussi qu'elle va disparaître. C'est pas seulement la prise de Jérusalem, de Samarie, mais celle de Jérusalem qui va avoir lieu. Et à ce moment-là, on va se demander, mais qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que cela m'arrive? Et alors, il montre justement, comme il l'avait fait dans l'éditorial, la différence qu'il y a entre l'historien, l'historien moderne, hein, notre manière de voir l'histoire, c'est-à-dire nous fixer sur des événements et des éléments objectifs, et le rédacteur biblique, qui est une vision croyante de la même histoire. Et alors il nous dit, je vous lis parce que c'est vraiment bien exprimé, avouons-le, des critères, ceux que je viens de vous de reprendre avec le chapitre 17e du deuxième livre des Rois, de tels critères déconcertent un peu le lecteur d'aujourd'hui. Pourquoi est-on meilleur roi si l'on a sacrifié de plus juste manière à Jérusalem? Pourquoi Jérusalem est-il meilleur que Samarie? Ézéchias ne s'est-il pas montré aventureux en provoquant l'Assyrien par son alliance avec le roi rebelle de Babylone? Est-ce que ce jeu politique était juste? Bon. Josias ne s'est-il pas conduit en fanatique zélé en détruisant tous les sanctuaires de son royaume au profit du seul temple de Jérusalem? Est-ce que ça valait le coup de détruire tous ces sanctuaires? Bah, syncrétiste, bien sûr, mais quand même avec une référence à Dieu. Est-ce que ça valait le coup? Josias ne s'est-il pas conduit à l'inverse, n'était-ce pas un bon calcul politique de la part d'Akaz de faire appel au roi d'Assyrie pour libérer Jérusalem de la pression des Araméens? Et n'était-ce pas sagesse que de se soumettre au pouvoir assyrien comme le fit Manassé en son temps, au lieu de se risquer dans quelques aventures? Mais tel n'est pas l'avis du livre des Rois, qui préfère au long règne pacifique de Manassé la brièveté tragique du règne de Josias. Donc il y a une manière d'écrire cette histoire. Comment comprendre alors un tel point de vue? À distance de la reconstruction que pourrait entreprendre l'historien contemporain, le théologien biblique construit le réel autour du temple. Ah, le temple de Jérusalem était vraiment un signe de l'unité de Dieu, du Dieu unique, de sa présence, puisqu'on venait adorer à Jérusalem. Donc il y a un élément important. Mais qu'est-ce que c'est que le temple? Est-ce que le temple est l'habitation de Dieu? Est-ce que Dieu habite des temples faits de main d'homme, des maisons faites de main d'homme? C'est un thème qui va revenir tout le temps dans le Nouveau Testament et surtout dans les Actes des Apôtres, c'est constant. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut signifier? À bien y regarder, les péripéties qu'il retient pour Juda ont surtout affaire au temple. Et donc ce qu'on va essayer de faire avant tout après l'exil, c'est de reconstruire le temple. Mais de nouveau, il y a deux manières de voir la réalité du temple. Le temple peut être regardé comme le lieu de la présence de Dieu et donc du culte, et plus ce culte va être pompeux et explicite et brillant, comme les cours des rois tout autour d'Israël, plus Dieu deviendra important. Et puis, il y aura une réflexion, mais nous la verrons avec le livre des Chroniques, mais est-ce que le temple, c'est la maison, c'est l'écrin, ou bien est-ce que c'est la réalité qui est au cœur de l'écrin et qui est précieuse? Et c'est la vie du peuple. Et c'est la vie des hommes. Et oui, c'est cette réflexion-là qui a eu cours à partir de l'exil. Et si un certain nombre parmi vous ont vu dans le séminaire sur le prophétisme Isaïe, c'est présent constamment dans le livre d'Isaïe, surtout dans la deuxième partie du livre, et aussi dans la troisième. Donc on va s'empresser de reconstruire le temple. Ce temple dont Jésus va dire, il va disparaître. Et qu'est-ce que cela signifie? Et vous voyez que, ici, la réflexion de l'Ancien Testament donne la main à la réflexion du Nouveau. Il parlait du temple de son corps, dit Saint Jean. Il parlait du temple de son corps. Et voyez tout le chemin de réflexion profonde qui se fait à travers ces textes et à travers leur rédaction. Donc la rédaction est vraiment une histoire. Elle n'est pas l'histoire événementielle. Mais sous-jacente à cette histoire événementielle, elle est l'histoire de l'alliance de Dieu avec les hommes et de ses vicissitudes. Et c'est bien ce que continue Philippe Abbadie dans ce texte. Restaurer et rassembler Israël. Et n'est-ce pas encore la réflexion du peuple d'Israël, du judaïsme, après la Shoah? C'est quelque chose du même type, plus profond encore. Car il y a eu une réelle extermination. Est-ce que le judaïsme a encore un sens? A-t-il encore sa raison d'être? Et réfléchissant là-dessus, après la Shoah, le concile en 1965, le concile Vatican II, a mis ce point en exergue. Est-ce que l'Église a encore besoin d'Israël? Non pas de l'Ancien Testament, ça d'accord, c'est dans la racine. Mais est-ce que l'Ancien Testament, est-ce que le judaïsme d'aujourd'hui, est encore fécond pour l'Église de ce temps? Et donc là, il y a tout un travail de réflexion de nouveau, du même type que celui des rédacteurs ici, qui s'est fait à Vatican II. Si je prends ces exemples, c'est pour vous montrer qu'il y a une unité profonde dans le sens de cette histoire. Je lis Philippe Abbadie. Ce dernier trait livre le ressort secret du livre qui est tout à la fois de reconstruire le temple et de restaurer Juda dans sa terre. Est-ce que la terre est importante? Est-ce que le lieu où Dieu habite, est important? Si l'histoire est dépeinte de façon si tragique, c'est qu'elle doit servir tout à la fois de leçon et d'avertissement. Écrit en fonction de la restauration à venir, le livre des rois sert à exorciser les fantômes du passé. Il convient d'imiter en tout la conduite de David. Ce que fit Josias, le grand réformateur du temple, et s'éloigner à jamais du péché de Manassé, qui fit perdre tout droit à la possession de la terre. Il ne s'agit donc pas d'une histoire objective, entre guillemets, si tant est que celle-ci puisse exister. Est-ce qu'on peut écrire une histoire parfaitement objective? Mais d'une histoire théologiquement orientée vers la restauration d'Israël en sa terre. Qu'est-ce que c'est qu'Israël? Et qu'est-ce que c'est que sa terre? Bienheureux les doux, dit Jésus, ils posséderont la terre. Que veut dire cette parole? en écho à tout ce que nous lisons dans le livre des rois. La lecture publique que fait Josias du livre de la loi retrouvé dans le temple, et là, il faudrait relire dans le deuxième livre des rois, le chapitre 22e, très intéressant, parce que il y a deux choses qui sont encore fort intéressantes dans le livre des rois, dans l'histoire d'Ézéchias d'abord, avec cette maladie d'Ézéchias et cette restauration de sa santé, cette résurrection en quelque sorte. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça revient évidemment dans le livre d'Isaïe, vous l'avez vu. La maladie et la guérison d'Ézéchias. Guérison hein, qui apparaît comme miraculeuse au moment justement où la pression est mise des Babyloniens sur Jérusalem. Et il y a la lecture de Josias alors, après, pour en quelque sorte donner du crédit à sa réforme, Josias dit, attention, quand on a fait des travaux dans le temple, on a retrouvé un vieux livre. C'était un livre de la Torah, et avec des prescriptions plus amples que celles qu'on avait avant, et on l'a oublié. Et donc, il a mis sur le compte de cet oubli, hein, cette réforme. Et alors, on va lire au chapitre 23e du deuxième livre des rois, vous avez une lecture solennelle de la Torah. C'est-à-dire, hein, vous voyez ça dans le séminaire sur la loi, hein, une sorte de reprise, une remise sous un nouveau jour, une correction des anciens codes de loi. Le code de loi que l'on appelle Deutéronomique, qui va du chapitre 12 au chapitre 26 du livre du Deutéronome. Et il faut étudier cela avec ses différences des autres codes. Il y a quelque chose de véritablement socialisant dans ce texte. Quelle est exactement la constitution du peuple? En quoi est-elle un signe face aux autres nations? Les autres nations suivent toujours une sorte de théologie du pouvoir. Et ce pouvoir est dans la main du roi et de ses conseillers, d'une petite aristocratie. Qu'est-ce que c'est maintenant que le peuple de Dieu? Ce peuple de Dieu dans lequel Dieu réside véritablement. Et donc, c'est là que se trouve le véritable fil rouge de la réflexion d'Israël. La lecture publique que fait Josias du livre de la loi retrouvé dans le temple anticipe sur la lecture solennelle par Esdras, nous le verrons la fois prochaine, par Esdras devant l'assemblée d'Israël après l'exil, au chapitre 8e du livre de Néhémie. L'une et l'autre ouvrent à Israël les chemins de son histoire éternelle, par-delà les ombres et malheurs d'un passé révolu. Dès lors, la boucle est bouclée, puisque cette longue histoire avait aussi commencé par une lecture du livre de la loi, celle de Josué, au cœur de la conquête de la terre. Chapitre 24e du livre de Josué. Qu'est-ce que c'est que ce cheminement d'une réflexion sur la Torah? Cette Torah qui est présente au cœur du peuple, mais qui est révélée par Dieu lui-même. Et la parole de Dieu ne va pas la chercher trop haut, ne va pas la chercher trop bas, car elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Le Deutéronome, c'est la réflexion deutéronomique. En définitive, toute l'histoire d'Israël est dominée par la Torah qui la fonde et la maintient vivante à travers les siècles. Et si on n'a pas compris cela, on n'a pas compris ce que signifie vraiment le judaïsme. Cette Torah est vraiment vivante. Elle est cette présence de Dieu au cœur d'un peuple qui a mis toute son espérance en Dieu, à travers des institutions qui valent ce qu'elles valent, qui sont reprises aux gens d'alentour, au monde d'aujourd'hui, dirions-nous, mais dans laquelle il manque l'essentiel. Cette présence de l'alliance de Dieu avec l'humanité, dont Israël garde le souvenir pour qu'il soit immortalisé. Et vous verrez que la plupart des prophètes se terminent toujours par, à la fin des temps, à l'époque messianique, qu'est-ce que c'est que le Messie ? Sinon cette royauté qui va cheminer à travers l'histoire jusqu'au dernier jour. Jusqu'au dernier jour de l'humanité. Et donc, cette espérance messianique que vous voyez orchestrée dans les psaumes, dont on dit par ailleurs, dont la tradition dit par ailleurs que ces psaumes ont été composés par David, hein, on en met en tout cas 70 à peu près sur le compte de David, qu'est-ce que cela veut dire, sinon que cette espérance, c'est l'espérance de l'alliance de Dieu avec l'humanité à travers le témoignage d'Israël qui se fait jour et qui doit finir par triompher. Et vous verrez aussi la relecture de ce cheminement du messianisme dans les chapitres 9 à 11 de l'Épître aux Romains. Alors, à travers toute cette histoire, faite d'échecs, finalement, qui se termine par la ruine absolue de Jérusalem, réputée jusque-là invincible à cause de la présence de Dieu, vous avez la finale du deuxième livre des rois, la fin du royaume de Juda, hein, je pense là page, pardon, 96, 97, je reprends un peu l'histoire en bref, 98, avec l'exil à Babylone, et cet exil à Babylone que l'on ne décrit pas dans le livre des rois, et pour cause, il n'y a plus de rois. Je prends la finale du deuxième livre des rois, alors que les Babyloniens ont envoyé comme gouverneur à Juda, hein, un homme qui s'appelle Gedolias et que l'on massacre en la 37e année de la déportation de Joachim. Dieu fera tenir debout Joachim. Dieu le rendra consistant, disons comme ça. Tenir debout, c'est plutôt Joachim. Tandis que Joachim, c'est Dieu fera tenir debout. Roi de Juda, au 12e mois, le 27 du mois, Évil-Mérodac, qui veut dire le serviteur de Marduk, le dieu Marduk, roi de Babylone, en l'année de son avènement, fit grâce à Joachim, roi de Juda, et le tira de prison. Vous voyez, cette anecdote nous dit quelque chose de très important. Voilà même que l'ennemi babylonien va tirer de prison celui qui l'a mis en prison. Et donc c'est un signe d'espérance, une ouverture, de nouveau un signe de résurrection comme du temps d'Ézéchias, la maladie d'Ézéchias. Il lui parla avec faveur. Il lui accorda un siège supérieur à ceux des autres rois qui étaient avec lui à Babylone. On avait pris un certain nombre de rois qui étaient prisonniers à Babylone et qui faisaient la cour du roi babylonien. Joachim quitta ses vêtements de captif, hein, une reprise de la sortie d'Égypte, de la captivité, et mangea toujours à la table du roi sa vie durant. Son entretien fut assuré constamment par le roi, jour après jour, sa vie durant. Et voilà la fin de cette histoire de Théronomiste. ça se termine par un ray de lumière en dessous d'une porte fermée. Échec, espérance. Et l'espérance est au cœur de l'échec. Et c'est même l'ennemi qui va reconnaître qu'il y a quelque chose dans ce peuple. Donc, histoire deutéronomiste commencée avec Josué et qui se termine ici même. Mais il y a tout l'exil. Il y a l'exil à passer, il y a à y réfléchir et à en rendre compte. Est-ce que c'est un châtiment de Dieu? Est-ce que Dieu châtie? Tout simplement. Est-ce que Dieu peut dépendre de l'action de l'homme? Alors Dieu n'est pas la gratuité absolue. Si Dieu est forcé de rendre une justice humaine, Dieu n'est pas Dieu. Vous voyez que la question nous ramène toujours sur cette réalité dont Israël doit témoigner, l'alliance. Voilà. Merci, vous pouvez lire la finale et nous commencerons la fois prochaine, tout en reprenant la conclusion que je viens brièvement d'évoquer, pour les livres des chroniques. Est-ce seulement un doublet de cette histoire? Merci.